Oui, Père, nous voudrions que tu nous rendes sensibles, Père, quand tu sonnes à la porte de nos cœurs. Qu'on puisse, oh mon Dieu, Père, être sensible pour pouvoir t'ouvrir nos cœurs, parce que c'est un moment béni de saisir cette opportunité. Quand tu frappes à notre porte, il faut que nous puissions entendre et ouvrir nos cœurs. Tu entreras, tu souperas avec nous et nous serons ensemble. Seigneur, merci pour cette grâce que nous venons de recevoir encore, cette grâce imméritée de nous retrouver ici ce soir. Nous te disons merci. Pas de mérite à faire valoir. Nous comptons tout simplement sur ta grâce, Seigneur, ce soir, que tu viennes parler à ton peuple. Père, je sollicite encore ta grâce. Je ne suis pas capable, Père, de me tenir derrière cette chaîne et de faire le travail que toi tu es censé faire, parce que c'est toi qui nous enseigne. La Bible déclare que ton onction nous enseigne. Alors, Papa, toi qui sens le cœur, toi qui connais les pensées des gens, que tu viennes toi-même selon le besoin, selon les questions, que tu apportes des solutions ce soir encore. Papa, que tu nous bénisses, parce que nous savons que nous ne sommes pas venus en vain. Nous allons trouver de quoi en mettre sous la dent et nous allons être consolés et nous allons être secouru dans toutes nos faiblesses. Laisse que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Nous t'avons ainsi prié dans le précieux nom insuffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous bénis richement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne venons pas ici par habitude. C'est tout comme respirer, ce n'est pas par habitude, n'est-ce pas? Quand nous respirons, c'est une nécessité. Hein? Une vraie nécessité. Alors, quand nous venons ici, il faut que la nécessité se fasse sentir dans le cœur de tout un chacun. Voilà pourquoi nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Nous savons que chaque fois, nous arrivons en ce lieu pour écouter sa parole. Alors nous sommes sûrs de recevoir la bénédiction, la vie pour l'éternité, selon le psaume 133, n'est-ce pas? Très bien. Pour ceux qui étaient là le mercredi passé, nous avons reçu un puissant avertissement de la part de notre frère Paul quand il s'adressait aux Hébreux, plus précisément au chapitre 12, le verset 15, il a été dit, « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soit infecté. » Alléluia. Nous avons vu l'amertume dans la phase de notre champ sémantique en ce qui concerne la mort. L'amertume s'est greffée dans ce champ sémantique. Mon frère, ma soeur, cet avertissement doit être pris au sérieux. Parce que l'amertume nous exclut fatalement du royaume de Dieu et de l'enlèvement. Puisque nous avons vu les dégâts que ce poison cause au niveau de la famille, au niveau des personnes et au niveau de la personne même qui se nourrit de l'amertume, n'est-ce pas? On a cité trois sources de l'amertume et chaque fois, on a essayé de donner des exemples pour illustrer la situation. Première source, lorsqu'il nous a été enlevé quelque chose ou que nous avons perdu quelque chose. Alléluia. Nous voyons le cas d'Ésaü qui n'a pas pris au sérieux l'avertissement, qui avait un caractère impie et relâché. Quand il perd son droit d'aînesse, il croyait qu'il y avait plusieurs bénédictions que son père pouvait encore avoir. Et quand il est venu, il a crié, c'était trop tard. Il n'y avait qu'une. Une. Et il a conçu de la haine dans son cœur en disant que le deuil de mon père va bientôt avoir lieu. Je tuerai mon frère. Voyez-vous? Attention. Deuxième source de l'amertume, lorsque nous faisons face à des circonstances que nous ne pouvons changer. Impossible de changer la situation. On est là, on va commencer à se poser des questions. Qu'ai-je fait au bon Dieu? Est-ce que moi? Non, c'est comme ça. Et troisième source, lorsque nos émotions sont blessées. Et quand nos émotions sont blessées, c'est notre ego qui est touché. Alléluia. On se sent rabaissé. Et comme on se sent rabaissé, ça ne marche pas. On va maintenant dresser des stratégies pour pouvoir se venger. Nous avons vu le portrait d'une personne qui est amère. Hein? La personne amère, comme je le disais, je ne vais pas revenir. En rentrant à la maison, en route, ma femme qui me regarde, alors ça va avec ton amertume. Je dis, cette affaire-là, on en a bavé, mais Dieu est bon. Au fur et à mesure, lui-même commençait à bouger les pions. Mais faire face à l'amertume, la personne amère, vous avez vu les cinq points qu'on a cités, je n'en reviens plus. Alors, dans ces conditions-là, vous constituez vous-même l'obstacle pour que votre prière soit exaucée, n'est-ce pas? Alors, je vous invite à vous lever ce soir. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Jacques 4. Vous voyez que Jacques, c'est notre joueur préféré. J'ai l'impression, depuis qu'on a commencé le quatrième obstacle à l'exaucement de la prière, Jacques joue bien. Jacques, c'est vraiment un bon numéro 10. Un bon numéro 10 parce qu'il ne fait pas un détail. Quand il parle, ceux qui sont attentifs apprennent beaucoup de choses. Oh, mais moi, c'est ce frère, il me fascine. Mais je pense que quand Dieu voudra, je prêcherai sur toute l'épître de Jacques, du verset du chapitre 1 au chapitre 5. Ça prendra le temps que ça prendra. Je veux vraiment, si Dieu me le permet, entrer, étudier là-dedans pour sortir des pépites. Jacques 4, verset 3. Verset 3, chef. Lisons. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Que Dieu ajoute de bénédictions à la lecture de ta parole et qu'il puisse accorder à tout un chacun une oreille attentive. pour qu'ils puissent écouter comme écoutent les disciples. Et vous devez sortir avec votre paquet. Alléluia. Donc nous sommes venus ramasser notre manne. Alors chacun va ramasser selon la quantité qui lui convient. Ah, asseyez-vous, mes frères et sœurs. Nous sommes sortis pour aller ramasser notre manne. Et chacun aura sa part. J'ai fait confiance au Saint-Esprit. Alléluia. Chacun aura sa part. On ne baille pas. Si on est fatigué, on doit aller laver un peu son visage pour bien suivre. Alors, les titres de la parole sur lesquels je vais parler ce soir sera « Vous demandez et vous ne recevez pas ». Alors, vous pouvez bien constater qu'aujourd'hui, nous allons quitter un peu le contour de la montagne de Séir. Alléluia. Nous sommes restés longtemps, tout simplement parce que le péché qui a été le quatrième obstacle à l'exaucement de la prière avait beaucoup de tentacules. Alléluia. Et d'ailleurs, ça serait un peu prétentieux de ma part de dire que nous avons épuisé ces champs sémantiques de la mort. Nous avons vu tout simplement, je pense, quatre éléments importants dans cette affaire. Le péché, la tentation, la convoitise et l'amertume. Le reste, que le Seigneur puisse lui-même ouvrir encore d'autres pistes pour que chacun puisse avancer dans cette affaire. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le cinquième obstacle à l'exaucement de la prière. Alléluia. Nous quittons le quatrième obstacle avec tout ce que nous avons appris. La tentation, la convoitise, l'amertume, et comment le péché enfante, et comment la convoitise est conçue. Oh là là! Rien que de beaux sujets. Alors maintenant, nous allons aborder, par la grâce de Dieu, le cinquième obstacle à l'exaucement de la prière. Il est écrit, clairement, vous demandez. Amen. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Avant d'étudier ces versets du jour, je voudrais d'abord qu'on puisse saisir le contexte dans lequel Jacques présente ces versets. Nous avons deux versets qui précèdent le verset 3. Tournons le regard vers ces deux premiers versets. Après, nous déboucherons sur le troisième verset pour voir effectivement comment les choses marchent. Premier verset. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Tout le monde suit? Deux. Vous convoitez. Oh, madame la convoitise. Et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Pourquoi? Parce que vous êtes meurtrier et envieux. C'est dans le cœur que ça se passe. Quand on a vu la convoitise, on a dit que la convoitise, c'est comme une herbe sauvage qui émerge naturellement dans le jardin. Tu n'as pas besoin d'arroser la mauvaise herbe. Elle est là, dans notre nature pécheresse, la convoitise. Vous êtes envieux et meurtrier. Et la Bible dit, vous ne pouvez pas obtenir. Mais il ne faut pas être un magicien pour comprendre ce qui se passe. C'est clair, c'est simple. Même un enfant de l'école maternelle, quand vous lui dites ça, il va retenir rapidement. Nous constatons que Jacques commence le chapitre par une question. Alléluia. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Et Jacques ne nous laisse pas le temps que nous puissions ergoter là-dessus, mais il donne la réponse lui-même. Quelle est sa réponse? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Passion. Donc, les conflits proviennent des convoitises ou des plaisirs sensuels. Il y a la convoitise, vous êtes envieux. Donc, quand vous enviez, c'est en termes de c'est en termes de plaisirs sensuels. Vous voulez obtenir ce que vous n'avez pas et vous vous battez. L'autre a, et moi je n'en ai pas, mais que dois-je faire? Voyez-vous? Donc ici, on fait du plaisir le principal but de la vie. On fait du plaisir le principal but de la vie. C'est dangereux. Alors, quand il est écrit, quand Jacques répond, en posant sa question, quand il répond, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres. De passions qui combattent dans nos membres. Suivons bien ce mot, passion. Faisons attention. Encore un individu. Un individu. Et Jacques connaissait bien tous ces contours-là. Encore un individu qui doit attirer notre attention ce soir. De passions qui combattent dans nos membres. Passion. Mauvaise inclinaison auquel on se laisse aller. C'est comme la convoitise. C'est comme la convoitise. La convoitise ne peut jamais se tenir au calme. Jamais. Alors voilà, nous avons un invité, surprise, Madame la Passion. Elle s'invite aussi, et alors moi, vous parlez aussi de moi, ça vaut la peine. Vous avez parlé de la convoitise, tant de la convoitise, et alors moi. Alors ici, Jacques dit, vos passions qui combattent dans vos membres. Voyez-vous? Les conflits, comme je viens de le dire, proviennent des convoitises ou des plaisirs sensuels. Quand nous avons compris ces deux premiers versets, nous pouvons déboucher sur le verset 3. Et le verset 3, c'est la conséquence de deux premiers versets. Alléluia. Le verset 3, qui fait l'objet de notre étude ce soir, il est écrit: vous demandez, le contexte est déjà clair, on nous dit des passions qui combattent dans nos membres et vous êtes meurtrier, vous êtes envié, vous ne pouvez pas obtenir. Et il ajoute maintenant au verset 3, vous demandez et vous ne le savez pas. Jacques est clair. Pourquoi? Il répond encore. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Voilà. Toujours, Madame la Passion, elle est là. Donc vous êtes là, quand vous vous mettez à prier, c'est pour satisfaire vos passions. Et c'est ça que je disais, le plaisir pour vous est votre principal but de la vie. Et l'Esprit dit, ah non, mon enfant, tu demandes mal. Tu demandes mal. C'est pourquoi tu ne reçois pas. Tes motifs sont mauvais. Tu veux satisfaire tes passions. Or, une passion, comme on vient de le dire, c'est une mauvaise inclination auquel tu te laisses aller. Non, messieurs, il faut de la retenue. Satisfaire les passions. Ici, hein, le passion, c'est le terme grec qui a été utilisé. Le terme grec. Personne ne parle grec, mais je note quand même. Et avec do, si c'est naï ou donner, je ne sais pas. Quand vous allez à la version originale, c'est ce mot qui est utilisé, qui est traduit en passion. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu ne comblera jamais les passions hédonistes. En français. Dieu ne comblera jamais les passions hédonistes. Passion hédoniste, c'est-à-dire faire du plaisir le but de la vie. Jamais. Jamais. Dieu ne comblera pas votre demande. Écoutez bien. En termes de plaisir hédoniste, Ecclésiaste 12, verset 1, dit ceci. Ça, c'est mon verset préféré quand je parle à mes cocos. Ecclésiaste 12. Nous lisons. Vous y êtes? Vous y êtes? Il y a des gens qui tournent encore leur Bible, alors j'attends. Vous y êtes? Ecclésiaste 12, verset 1 dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur. Et selon les regards de tes yeux, voyez-vous? Mais à la fin, qu'est-ce que le sage dit? Mais sache que tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Qu'est-ce que vous comprenez? Ah, donc nous devons modérer nos désirs. Parce que la fin du verset nous dit bien tout ce que tu peux faire. Tes yeux vont voir, ton cœur va envier, tout ce que tu veux. Les sages ajoutent à la fin pour terminer son verset. Il dit, mais une opposition à ce qui vient d'être dit, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Mes chers frères et sœurs, nous avons des choix à faire. Modérons nos désirs. Comme la Bible dit, tout est permis, tout n'est pas utile. Alléluia. Tout est permis. Maman, papa, tout est permis. Est-ce que tout est utile? Le sage a livré son cœur à tous les plaisirs possibles, n'est-ce pas? Il n'a rien manqué. Ses yeux ont vu son corps. Oh! Mais il dit, tout cela n'est que vanité de vanité. Et il va terminer. Crains Dieu. Crains Dieu. C'est cela que tout homme doit faire. Craindre Dieu. Non pas dans le sens, oh non, je serai plus. Non. Craindre Dieu, c'est-à-dire, tu auras bien compris le message de la grâce. Alléluia. Quand tu auras bien compris le message de la grâce, en ce moment, tu te dis, oh mais non, ce que Christ a fait pour moi, est-ce que je veux vraiment le remettre encore à la croix pour ça? Non. Ce que Christ a fait est tellement grand pour moi. Tout ce que je suis, c'est une faveur. Non, je renonce. Rien que comme ça. Parce que tu as compris le message de la grâce. Mais tant qu'on n'aura pas compris le message de la grâce, les passions combattront toujours dans nos membres, nos yeux. Ne seront jamais morts. Tout le temps. Ah, tu as vu? Et nos oreilles? Tu as entendu? Non, monsieur. Non, madame. N'oublie pas tout cela. Hein? Tout cela. Dieu t'appellera en jugement. N'est-ce pas? De cœur mauvais qui recherche le succès dans la prière sans se placer sur le terrain de la volonté de Dieu sont voués à l'échec. Ma sœur, tu pries par exemple pour la conversion de ton mari qui est un croyant. Hein? Ok, mon mari s'est converti, ça. Mais tes mobiles secrets sont impurs. Peut-être que tu penses dans ton cœur, quand mon mari sera converti, il m'amènera tous les dimanches à l'assemblée, n'est-ce pas? Toutes les sœurs verront que je descendrai à bord de la voiture de mon mari. Alléluia! Ah oui! Alors, elles sentiront. Amen. Quand mon mari sera converti, il sera gentil à la maison. Il va m'aider dans les travaux domestiques. Mais, ma sœur, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu pries pour une chose que Dieu désire accomplir, la conversion de ton mari. Dieu veut bien accomplir cette chose-là, il est noble, n'est-ce pas? Mais il ne le fera jamais. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas droit. Ton cœur n'est pas droit. Tu vois ce que tu penses? Quand il s'arrêtait là, devant le 94, et moi je descendrai, lui il ira chercher la place et moi je serai déjà à l'assemblée. Oh, c'est bien ça. Vraiment un chauffeur pour moi. Ah. Mais le pauvre frère qui s'est converti, lui ne lit pas dans tes pensées. Il ne connaît pas ton cœur. Mais Dieu détecte l'infection qui est dans ton cœur quand tu fais cette prière-là. Alléluia. Bien des chrétiens et des chrétiennes font obstacle ainsi à l'exaucement de leurs prières auquel Dieu se plairait à répondre si cela pouvait contribuer à sa gloire. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Toujours lui, Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et il est écrit au premier verset et au deuxième verset, nos passions combattent dans nos membres. Alléluia. Alléluia. Alors, nous voyons un frère à qui peut-être Dieu a donné un don. Il dit, mais éternel mon Dieu, est-ce que tu trouves ça normal, moi, ton serviteur, que je ne puisse pas avoir de voiture? Hein? Il faut m'en donner une. Sinon, ton œuvre, sinon ton œuvre ne va pas avancer. Mais derrière cette demande, il y a une satisfaction égoïste. Alléluia. Et comme il y a une satisfaction égoïste, tu es tout simplement attiré et amorcé par les ruses du diable. Alléluia. Dieu n'exaucera pas ce genre de prière et tu resteras toujours à pied, mais l'œuvre de Dieu va prospérer. Voilà. Dans ce moment-là, les frères Benoît vont sentir avec frère Bernard tout le temps, mais votre serviteur qui est toujours à pied, mais vous, tout, bah quand même, il faut faire des efforts dans la gestion. Frère, tu partiras parce que Benoît ne saura pas t'offrir une voiture. Tu partiras. Mais la manière dont tu partiras, ça sera propre. Parce que l'œuvre de Dieu va continuer à prospérer. Sois-en sûr, mon frère, toi avec un ministère canon, quand tu pries, les malades guérissent. Très bien. Très bien. Mais tu n'auras pas cette voiture pour laquelle tu pries nuit et jour. Des jeunes à la maison. Oh là 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 là. Mais il y a derrière ta demande une satisfaction égoïste. Il faut que tu te rendes compte que tu es attiré et amorcé par les ruses du diable, alors tu es aveuglé. Alors, tu vas concevoir. Hein? Il est dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Cette assemblée-là, franchement, ils ne prennent pas soin de leur serviteur. Alors moi, je pense que non, ils sont en train de me voler, alors que c'est mon droit, tout. Ah, chef, examine tes motifs. Examine tes motifs. Tu es une voiture pour que l'œuvre de Dieu prospère. Dieu lui-même sait comment faire ça. Sans que tu te casses la tête. Il faut être vraiment vigilant de jeûne et de prière. Ça ne vient pas. Hein? Ah oui, comme la question, mais je continue à... Le silence sera total. Hein? Le silence sera total. Quand bien même, pour méditer, tu vas commencer à bâiller, donc tout le temps fatigué parce que bon, tu es fatigué. Et tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Dieu va se taire gentiment. Il peut te faire attendre. Là, on sait. Et il peut te dire non directement. Mais là, silence là. Mais rien. Finalement, vous dans cette maison, vous êtes de sources d'entrée, des histoires, et les choses n'avancent pas. N'accusez pas les gens. N'accusez pas les gens. L'obstacle à tes prières, c'est toi. L'obstacle à tes prières, ne mêle pas dans, dans tes aventures, ta femme, tes enfants, ils n'ont rien à voir. Alléluia. Alors, frère, à ce niveau de la prédication, nous ne comprenons plus rien. Non, suivez-moi très bien. Je parle un langage de simple. Je ne parle pas un langage de savant. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Est-ce que vous avez compris? C'est simple. Et nous continuons. Alors maintenant, frère, comment demander de la bonne manière? Il est écrit, 1 Jean 5. Verset 14 à 15. En tout cas, je demande à Bro Benoît de lire ça. C'est une aide à haute voix. 1 Jean 5, verset 14 à 15. Que chacun lise. Alors, chef, on doit commenter ça. On doit expliquer ça. Est-ce que ça nécessite commenter ça? Hein? Même à la cour de récréation des enfants de la maternelle. Alléluia. C'est clair. C'est clair. Nous compliquons les affaires pour rien. Parce que nous ne voulons pas nous rabaisser au niveau d'un petit enfant. Qu'on soit des enfants et que lui, il nous dit d'abord, si méchant que vous êtes capable de donner à vos enfants bien des bonnes choses, n'est-ce pas, vous, méchant. Et par contre, lui, qui sent le cœur, qui connaît tout, hein? Il connaît tous les 366 jours de l'année, secondes, minutes, heures, toutes les circonstances, pendant les 366 jours, il les contrôle. Qu'on ne se complique pas, il est bien écrit. Hein? Nous avons auprès de lui cette assurance. C'est lui qui t'assure. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère à qui tu as demandé 20 euros. La circonstance arrive, il ne pourra plus te donner les 20 euros. Il ne pourra plus. Il ne pourra plus. Frère, mais tu m'avais... Oui, mais au moment où je t'ai promis, j'avais les 20 euros. Mais maintenant là, le huissier est passé, donc je devais avancer les 20 euros. C'est sincère, hein? Mais quand Dieu a promis, il ne peut pas commencer à s'excuser. Non, mon fils, tu sais, je suis à court d'argent, passe la semaine prochaine comme ça. Non! On nous parle de l'assurance. Il faut bien peser les mots qui sont utilisés dans ce contexte. On nous parle ici de l'assurance. On peut nous donner la définition de l'assurance. Dieu t'assure. Ce n'est pas ton copain. Ce n'est pas ton copain. Ce n'est pas ton grand-père. Il est papa. Dans sa banque. Oh. Ça déborde. Ça déborde. Il n'en a pas besoin. C'est pour toi et moi. Mais comment se fait-il que tu ne le sois pas? Tu es dans la misère. Comment? Il y a un problème. Parce qu'il y a des passions qui se combattent dans tes membres. Pour toi, le plaisir sensuel est le but principal de ta vie. Alors, tu es mort. Chef assurance. Parole, acte qui sert à garantir quelque chose. Toi, tu peux me garantir. Quand une circonstance va se lever devant toi, c'est fini. Plus de garantie. Mais pas Dieu. Pas Dieu. Et puis il est écrit. Nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Et si nous savons, donc toi tu dois le savoir, toi, si tu sais qu'il t'écoute, c'est-à-dire que tu es son fils, papa m'écoute. Papa m'écoute, papa est attentif. S'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Donc, la bonne façon pour les chrétiens de satisfaire leurs besoins légitimes, c'est en le demandant à Dieu. Parce que Dieu, il nous écoute et Dieu, il nous assure. Alléluia. Remontons le temps. Dans notre prédication d'un certain mercredi du 9 février, que nous avons intitulé « La réponse à la prière consiste à recevoir », nous avons donné 5 pistes pour que nous puissions recevoir selon Dieu. Alléluia. Puisqu'on vient de se poser la question, comment demander de la bonne manière? La bonne manière, pour demander pour recevoir, on a donné 5 points. Premier point, abandon total à la volonté de Dieu. Abandon total à la volonté de Dieu. Deux, discerner cette volonté chaque fois. Il faut la discerner. Qui va discerner la volonté de Dieu? Celui en qui la parole de Dieu habite abondamment. Alléluia. C'est lui en qui la parole de Dieu habite abondamment selon Colossiens. Ce n'est pas celui qui se réveille le matin, bon, justement, papa, pas de voir, il prend un verset, il lit et puis il fait. Non! Sa nourriture, c'est la parole. Il est dans la parole. Il demeure dans la parole. C'est ça un disciple. Car la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais comment vous pouvez faire si vous ne demeurez pas dans la parole? Discerner cette volonté. Trois, demander par la foi. Ah, bien sûr, sans la foi, nous ne lui serons jamais agréables. Mais pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. C'est la foi qui rendra visible les choses invisibles. Et suivez-moi bien, la foi s'opère dans la patience. Et la patience n'est pas dans le temps. Saisissez ça très bien. La patience n'est pas dans le temps. Ah, mon frère, c'est une autre dimension de la manière de vivre la parole de Dieu. La foi s'exerce dans la patience. Et la patience n'est pas dans le temps. Alors si vous êtes dans le temps, mais cet exercice-là n'est pas dans le temps. Priez dans la foi, nous demandez par la foi, et quatre, persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Luc 18, ne vous relâchez point. Hein? Ne vous relâchez point. Priez sans cesse. Alléluia. Jusqu'à sept. Et enfin, cinquième point que nous avons abordé, il faut prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons expliqué, ça veut dire quoi? Prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'on ne soit pas comme des perroquets, mais vous devez comprendre. Quand vous priez au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez la prédication du 9 février 2022. On a parlé de tout ça. À part ces 5 points, mon frère, ma sœur, recherchez toujours la raison qui te pousse à demander telle ou telle chose à Dieu. Toujours. La raison pour laquelle nous prions est beaucoup plus importante que les mots que nous prononçons. Alléluia. Un cœur pur qui aime Dieu et les gens est toujours une raison déterminante aux yeux du Seigneur. Alléluia. Tandis que l'égoïsme est inacceptable. Comme ce fameux pasteur de votre assemblée, ou ce fameux prédicateur qui veut une voiture, sinon l'œuvre du Seigneur ne va pas prospérer, il y a une satisfaction égoïste qui est recherchée derrière. C'est inacceptable devant Dieu. Alléluia. De même, si tu demandes quelque chose par esprit de vengeance, ta prière sera inacceptable. Alléluia. Un désir de manipulation et de contrôle est également inacceptable. Tout comme la jalousie et l'orgueil. En fait, tout ce qui provient d'un esprit égoïste est voué à l'échec. Qu'on intègre ça. Tout ce qui provient d'un esprit égoïste est voué à l'échec. L'égoïsme, c'est un grand piège dans notre marche chrétienne. L'égoïsme, c'est aussi un drôle de coco, hein? Il faut bien le surveiller. Il faut bien le surveiller. Si nous avons Madame la Passion, Monsieur l'égoïste, il faut bien le surveiller, c'est un couple dangereux. C'est un couple dangereux que nous pouvons qualifier d'association de malfaiteurs. Passion plus. Et égoïsme, keba. Keba. Rentrez des fois à la maison. Prenez votre dictionnaire. Il faut faire l'étude croisée. Et des fois, enfin, moi, j'ai ma Bible Thompson qui fait chaque fois des références. Tac, 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 tu vois, je parcours un peu dans un contexte précis tous les mots et comprendre chaque fois que ces mots sont utilisés. Alors, ce couple-ci, passion et égoïste, c'est un couple de malfaiteurs. Association de malfaiteurs, attention. Vous savez, s'aimer soi-même sans doute est un art dangereux et lourd de responsabilité. Toi qui parles, jusqu'au fond. Faut bien examiner. S'aimer soi-même sans doute est un art dangereux et lourd de responsabilité. Vous savez, la plupart de tes souffrances et de mes souffrances, hein, ne sont-elles pas la conséquence de la médisance de quelqu'un à ton encontre? Réfléchis bien. Il a dit quoi? Encore? Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Alors là, au-dedans, ça bouillonne. Ça bouillonne parce que ton ego a été touché. Moi là, mais non, je ne peux pas parler comme ça. Merci bien. Mais aussi longtemps que tu te considéreras comme un petit Dieu à qui l'on doit loyauté et respect, beaucoup trouveront amusant d'insulter l'idole que tu te fais toi-même. Ah oui, mais tu ne comprendras pas les yeux. Hein? Mais Satan est derrière là, il comprend bien. Allez, c'est du frère, c'est du sœur, allez, puisque tu t'es fait un petit Dieu, tu aimes bien que quand tu passes, oui, respect, loyauté, mais Satan a ses agents aussi pour te mettre à l'épreuve, pour te faire tomber. Pas l'épreuve selon Dieu, mais l'épreuve pour te pousser à la faute. Parce que comme la personne amère, elle est encline à la colère, parce que bon, c'est au-dedans d'elle. Elle a été touchée. Ses émotions ont été blessées. Tu vois? Tant que tu vas te considérer comme un petit Dieu à qui l'on doit loyauté et respect, Satan aussi s'est bien arrangé pour mettre sur ton chemin tes agents pour te disqualifier. Alléluia. Comment puis-je vaincre? À la page 29. Écoutons un peu le messager. Paragraphe 119. Puisque tu t'es fait un petit Dieu à qui l'on doit respect et loyauté, le messager dit: rappelez-vous que vous vivez pour Dieu. Hein? Rappelez-vous que vous vivez pour Dieu. Vous avez un seul objectif. Lequel, mon frère? C'est Jésus-Christ. Rien ne compte en dehors de cela. Votre famille vient en deuxième position. Et ensuite, vous-même. Premièrement, Dieu. Ensuite, votre famille. Ensuite, vous-même. Vous êtes en troisième position. C'est tout. Alors, ton statut-là de petit Dieu, ce soir, tu dois oublier. Si tu veux vivre en paix et avoir du succès dans le service du Seigneur, redeviens un homme humble, une femme humble à la troisième position. Alléluia. À la troisième position. Vous savez, parce que je n'ai pas commencé au début du paragraphe. Mais écoutez ce qu'il dit au début du paragraphe. Prenons l'exemple de nos sœurs. Elles sont jolies et Satan peut les inciter à laisser pousser leurs cheveux de manière qu'elles pensent que cela leur va très bien. Et alors, cela leur donne de l'orgueil. Et elles peuvent en arriver à se sentir un peu supérieures à quelqu'un d'autre. Vous avez vu, hein? Le petit Dieu, la petite déesse. Ah, on rigole, hein? Mais justement, ce sont ces choses-là auxquelles nous devons faire très, très attention. L'égoïsme, c'est un piège. Quel de mauvais motif dans nos vies? Quel de mauvais motif n'a-t-on pas souvent avancé dans nos prières quand en nous il y a le désir d'obtenir le plus gros morceau du gâteau? Il faut écouter les gens prier. Parce que dans son désir là, il veut obtenir le plus grand morceau du gâteau. Il y a 10 parts du gâteau. Lui veut au moins obtenir 9 parts. Mais nous sommes 20 dans la salle. Lui veut 9. Le reste, c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, examinons sans cesse les raisons qui se cachent derrière nos requêtes. Alléluia. Examinons sans cesse les raisons qui se cachent derrière nos requêtes. Les analyser objectivement. Ça, c'est un job. Dans le livre des Corinthiens, Paul dit aux Corinthiens, examinez-vous. Hein. Examinez-vous. Alors, cet examen doit être objectif. Objectif. Il ne faut pas dire, ah oui, ben, c'est mon enfant, oui, c'est ma belle-sœur, oui. Non, 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 non. Pas de parti pris. L'examen doit être objectif pour obtenir des résultats concrets qui seront aussi objectifs pour l'intérêt de ta vie. Je sais que cela risque de nous faire mal. Hein. Ça risque de faire mal parce que mon ego, voyez, et puis bon, on adoucit un peu, on arrondit les angles. Non, monsieur! Non, madame! Non, madame! Parce que bon, tu te trompes, hein? Tu te trompes, tu ne trompes pas Dieu. Après, il y aura le retour de flamme quand tu auras fait ça. Ça fera mal. Mais cette étape est nécessaire si nous désirons voir nos prières exaucées. Alléluia. C'est amer à boire, mais c'est comme ça. Parce que si tu veux être un réalisateur de la parole, il faut faire les choses telles que Dieu le demande de les faire. Alléluia. Vous demandez et vous ne recevez pas. Jacques a pris soin de donner la raison. Notre but est mauvais. C'est lequel nous voulons satisfaire nos passions égoïstes. Alors là, Dieu n'est pas d'accord. N'est-il pas écrit dans la Bible quelque part, tout ce que nous devons faire, c'est pour la gloire de Dieu? N'est-il pas écrit ça dans la Bible? Tout ce que nous devons faire, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit aussi dans la parole, tout ce que nous faisons, nous devons le faire au nom, qu'il s'agisse en acte ou en pensée, au nom du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, ben, comment est-ce que nous passons à côté les éléments constitutifs même de notre marche? Ce sont là les éléments auxquels nous devons être très attentifs et être très familiers. L'Esprit vient d'apporter un éclaircissement sur ce qu'est la passion et ses conséquences. Lutte, de meurtre, sont là les conséquences de nos passions égoïstes qui combattent dans nos membres, n'est-ce pas? Alors, vous savez, il y a, je pense, 3 semaines passées, ou 2, donc quand on avait parlé de la tentation, j'ai commencé la prédication en stigmatisant le présentéisme. Alléluia. Je préfère celui qui reste à la maison, qui est absent. Il est absent. Voilà, on sait qu'il est absent. Mais que de venir ici pour faire la présence. Non. Non, je recuse cette attitude. Présentéisme. Non. Non, 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 non. C'est pour cela. Mon fils a des oreilles dressées. Je ne cite pas les noms. Maintenant, je vous invite à prendre une décision. Alléluia. en rapport avec ce que nous venons d'écouter. Vous demandez et vous ne possédez pas. Donc, c'est à toi et moi de prendre une décision par rapport à ce cinquième obstacle à la prière. Alléluia. Obéissons à ce qui vient d'être dit et mettons-le en pratique. Voilà pourquoi je stigmatise le présentéisme. Sinon, restons à la maison. Obéissons à ce qui vient d'être dit et mettons-le en pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Menons des actions concrètes pour expérimenter ce qui a été dit plus loin. La réponse à la prière consiste à recevoir. Alléluia. Nous devons mener des actions concrètes. Donc, en sortant d'ici, vous vous dites, moi, je viens d'écouter en tant que fils de Dieu, je veux que ce qui a été dit, la réponse à la prière consiste à rester moi, je veux expérimenter cela. Alors, je vous propose 5 actions à réaliser. De manière perso, sans obligation, mais de manière perso. Parce que si vous êtes réalisateur de la parole, il faut mettre en pratique cette parole en mettant au point des actions concrètes à mener. Alléluia. Vous demandez et vous ne possédez pas. Voici les 5 action que je vous propose ce vendredi soir et vous allez évaluer vous-même dans la manière de progresser. Première action, priez en harmonie avec la pensée de Dieu. Priez en harmonie avec la pensée de Dieu. Deuxième action à réaliser. Priez avec efficacité en purifiant ton cœur selon 1 Jean 3, verset 3. Priez avec efficacité en purifiant ton cœur selon 1 Jean 3, verset 3. Priez avec efficacité en purifiant ton cœur selon 1 Jean chapitre 3, verset 3. Troisième action à réaliser, examinez sans cesse les raisons de tes requêtes. Examinez sans cesse les raisons de tes requêtes. Examinez sans cesse les raisons de tes requêtes. 4. Fais attention à l'absence de la prière. Mais je prie, Mais il faut formuler. Penser n'est pas prier. Alléluia. Il faut apprendre à formuler vos prières de manière précise. Fais attention à l'absence de la prière. 2 points, savoir formuler les choses. Enfin, apprends à pardonner et à confesser tes péchés, selon 1 Jean 1, 9, je pense. Oui, 1 Jean 1, versets 8 à 9. Voilà. Ce sont là des actions que nous devons réaliser en ce moment-là. Nous allons devenir des réalisateurs de la parole et non des passifs, non ceux qui pratiquent le présentéisme. Non, messieurs, nous devons avoir une vie de prière victorieuse. Alléluia. Et pour que nous ayons une vie de prière victorieuse, nous devons mettre en pratique ce que nous écoutons de manière concrète. Alléluia. Sans cela, regardons les chrétiens de Béret. Après avoir écouté, ils rentraient. Vérifier. Alléluia. Donc, ils sont actifs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour le service de ce soir. Seigneur, merci pour avoir encore pris soin de nous. Seigneur, merci parce que nous avons été autour de ta table. Seigneur, merci. Nous venons d'écouter. Maintenant, 5 actions nous ont été proposées pour que nous puissions y travailler, qu'on ne soit pas des personnes oisives, mais nous devons mettre en pratique ce que nous écoutons. Nous devons vivre en observant ces choses, comme les chrétiens de Béret, après avoir écouté, ils allaient vérifier si ce qui leur a été dit était conforme à la parole. Voilà ce que nous voudrions devenir à l'avenir. Alors, Seigneur, pardonne-nous d'abord nos offenses, Père. Pardonne-nous notre ignorance. Sans toi, nous savons que nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous serons capables de le faire. C'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. C'est pourquoi nous venons devant toi. Rends-nous capables. Rends-nous capables, Seigneur. Délie-nous de tout lien de paresse, de tout lien de distraction. Libère-nous, Père, de ces passions qui combattent dans nos membres et qui nous empêchent de faire les choses convenablement. Seigneur, merci. Regarde-nous tout simplement au travers du sang de ton Fils. Seigneur, s'il te plaît, ne passe pas ton chemin sans pour autant, Père éternel, que tu puisses nous manifester ta miséricorde, que tu puisses nous manifester tes compassions. Seigneur, c'est avec toi que nous ferons des exploits. Alléluia. Seigneur, merci pour ce soir. Le temps de nous séparer est arrivé. Tu nous as accordé la grâce de venir ici. Maintenant, Seigneur, accorde-nous encore la grâce de rentrer dans nos maisons respectives. Sois avec nous, que tu te souviennes, Seigneur, de ceux qui sont absents. Toi seul, tu connais les mobiles qui les a empêchés d'être autour de ta table ce soir. Papa, si tu tardes à venir et que tu nous permets de nous retrouver encore le dimanche, ça sera pour la gloire de ton Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, nous t'avons prié dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Notre service ce soir est terminé.